Nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième épisode de la série sur l'enseignement à distance. Bonjour mesdames.
Bonjour Mylène.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est moi le boss, c'est moi qui pose les questions. Aujourd'hui, on parle de planification.
J'ai les paumes en sueur.
Oui, moi aussi, puis c'est un sujet très large sur ce quoi précisément est-ce qu'on va parler.
Comment est-ce qu'on planifie notre enseignement à distance? Comment est-ce qu'on planifie les leçons en direct? Comment est-ce qu'on planifie les rencontres en sous-groupe? Comment est-ce qu'on planifie les rencontres individuelles? Tout ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pam, pam, pam! OK. Alors, mesdames. Sachant qu'on a un 30 minutes de live par jour pour le primaire, comment est-ce qu'on garde ça engageant?
Bien, je pense qu'on a déjà parlé du fait qu'il faut que ce soit interactif. Et même nous, lorsqu'on planifie des formations, on planifie de l'interactivité, on planifie que les gens soient actifs. Alors, il faut regarder sa leçon et voir où est-ce que j'ai mis de l'interactivité et où est-ce que j'ai mis les élèves en action.
Alors là, c'est l'idée d'être en action à l'opposé d'être passif. Être assis puis d'écouter la télé, je suis en mode passif. Mais si je réponds aux questions, je partage, je collabore, à ce moment-là, je suis engagée.
Exactement.
Oui. Comme je dis tout le temps, dans la salle de classe, on ne va pas parler pendant 30 minutes ou pendant 45 minutes puis les élèves sont assis là. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent? En fait, présentement, dans le contexte actuel, ça va être encore plus important. Parce que si tu parles, et parce que surtout si tu n'es pas physiquement avec eux autres, puis si tu n'arrêtes pas de parler, mais eux autres, ils vont décrocher, ils ne vont pas être engagés. C'est comme, ils regardent déjà assez de YouTube, ils regardent déjà assez de vidéos en ligne. Ils n'ont pas besoin de regarder une autre vidéo. Ils veulent avoir de l'interaction, ils veulent interagir avec d'autres personnes.
Oui, même moi, comme adulte, j'ai remarqué que depuis que nos rencontres sont en ligne, puis j'espère que nos directrices ne nous écoutent pas, je perds plus, comme je manque des morceaux. Alors, je dirais que, tu sais, il faut pas non plus qu'on parle trop longtemps ou que nos leçons soient trop longues. Alors, on avait parlé aussi du fait que il faut présenter des mini-leçons aux élèves et changer d'activité ou de façon de faire assez régulièrement.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis surtout dans le contexte où on est, parce que comme tu dis, Vicky et Jen, comme si je ne suis pas engagée dans la conversation, je peux... Parce qu'on souvent, on demande que quand tu n'es pas en interaction, tu fermes ton micro, tu fermes ta caméra. Mais là, rapidement, je peux avoir l'esprit que ça va faire autre chose parce que je suis pas... J'écoute, mais je suis pas... dans la conversation, j'ai pas de contribution à donner, j'ai pas d'éléments à réutiliser ou à renseigner. Alors, ça devient difficile à ce moment-là.
Oui, et je suis à la maison et mon petit frère est à côté de moi, j'ai des jouets, j'ai d'autres onglets. S'il y a personne qui me regarde, je pourrais ouvrir, tu sais, quelque chose d'autre sur mon ordinateur. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important que l'élève devient habitué aussi et sache que madame ou monsieur va peut-être me poser une question bientôt ou il va peut-être y avoir un sondage, un questionnaire, un document partagé où il va falloir que je sois engagée.
Oui. Puis en même temps que nous autres, comme adultes, on avait besoin d'une période d'adaptation pour lorsqu'on travaille à la maison, on a une autre routine, on a une autre d'autres façons de faire, mais les élèves aussi. Alors, ils ont besoin d'une petite période d'adaptation. C'est vraiment d'avoir une conversation avec eux autres en disant, OK, ben là, pendant les 30 prochaines minutes, pendant les 15 prochaines minutes ou pendant les 10 prochaines minutes, là, j'aimerais ça que vous soyez attentifs, mais après ça, on va avoir une interaction. Je pense que de les préparer un petit peu, puis de leur donner du temps à s'adapter, je pense que c'est très important aussi.
Une chose que j'avais apprise en salle de classe aussi, c'était que même si je pensais que j'avais bien enseigné quelque chose, que mes élèves savaient déjà comment se promener dans le corridor. Alors, j'ai une place de jardin, on va à la bibliothèque. Je leur ai déjà dit, tu sais, on va pas toucher toutes les affaires qui sont affichées dans le corridor. On va pas faire trop de bruit parce qu'il y a d'autres qui travaillent. J'ai trouvé que ça valait la peine, avant de partir à la bibliothèque, de leur rappeler, on va à la bibliothèque. Comment est-ce qu'on se promène dans le corridor? Alors, peut-être de planifier aussi, surtout dans les premières semaines, de commencer chaque leçon avec un petit rappel de « Aujourd'hui, on travaille en ligne. Quelles sont les règles? » Pas nécessairement les règles, mais nos façons de faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je prends la parole? Comment est-ce que je me remets en sourdine après? Des affaires comme ça.
C'est toute l'idée de l'explicite. C'est l'explicite autant dans le contenu que dans le contenant. Dans la « qu'est-ce que je vais enseigner? » puis de la manière dont l'enfant va le recevoir. Hein. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps en live avec les enfants, comment je peux m'assurer, comment je dois planifier pour m'assurer que l'enfant va en tirer le maximum?
Et une chose qu'on dit souvent, puis c'est presque devenu une blague entre nous trois, c'est le mot « intention ». Il faut que je sache aujourd'hui c'est quoi mon intention. Puis on avait parlé au conseil du fait qu'on a moins de temps maintenant avec les élèves. On a déjà perdu du temps avec les élèves. Alors, il faut qu'on se concentre sur les apprentissages essentiels. Alors, il faut que j'aille voir dans les documents du conseil qu'est-ce qui est d'importance primordiale pour mes petits de la troisième année, de la sixième année, de la huitième année, pour qu'ils aient du succès dans le niveau suivant. Alors, il faut que je sache sur quoi je vais travailler. Ce n'est pas juste que je vais les tenir occupés, je vais garder leur attention pendant 30 minutes, c'est que je sais quel est mon objectif pendant ces 30 minutes.
De manière à pouvoir être exponentielle dans ce 30 minutes-là, l'idée de la classe inversée est aussi une possibilité. Si j'ai un apprentissage, une mini-leçon, je dis bien, hein, une mini-leçon à proposer aux élèves, 5 minutes, je m'enregistre au préalable. Comme ça, dans l'apprentissage à la maison, je propose à l'enfant de l'écouter à tête reposée ou lorsqu'il peut le fast-forwarder ou le reculer autant qu'il veut pour bien comprendre les concepts. Pour que quand on est ensemble pendant le 30 minutes, je peux aller consolider, je peux aller travailler là-dessus plutôt que juste de faire l'enseignement du concept. Alors oui. ça pourrait être une solution.
Les mini-leçons, si tu penses, hier, j'écoutais YouTube parce que c'est le confinement, alors il faut... Oh, écouter YouTube. Mais quand je voyais, il y avait un certain... J'avais entendu quelque chose sur une autre balado, puis je voulais avoir plus d'infos. Alors, je cherchais la personne qui était l'invitée sur la balado, sur YouTube, mais si ça dépassait 6 minutes, je voulais pas l'écouter. Alors, si moi, comme adulte, je veux juste consacrer 6 minutes à l'écoute d'une vidéo, ben nos élèves veulent pas écouter 22 minutes non plus. Et je pense souvent à quand je faisais mon stage en deuxième année dans une école, quand j'étais à la faculté, l'enseignante était une magicienne, vraiment, avec les mini-leçons. Et je pense toujours à elle. Quand je pense aux mini-leçons, je me rappelle, elle voulait enseigner aux élèves le récit avec dialogue. Elle voulait leur enseigner la notion du dialogue puis de la ponctuation qu'on utilise pour montrer qu'il y a quelqu'un qui parle. Alors, la première journée, elle avait juste lu l'album. Alors, il y avait une girafe qui parlait, c'était au zoo, ta-ta-ta-ta-ta. Alors, ça, c'est ton amorce. Alors, un jour, je lis l'album aux enfants, peut-être pendant mon live. Ensuite, je fais ma mini-leçon sur la ponctuation qui indique qu'il y a quelqu'un qui parle. Alors, ça, c'est 5 minutes de « qu'est-ce que tu vois sur cette page? C'est qui parle? » Pourquoi, peut-être c'est plus loin, mais pourquoi est-ce que l'auteur a choisi d'avoir du dialogue? Parce que ça démontre ce qui se passe dans la tête d'un personnage. C'est important de savoir aussi pourquoi on ajoute du dialogue. Mais c'est 5 minutes de qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a quelqu'un qui parle? Voilà.
Mais ce que j'aime avec la mini-leçon, c'est que ça m'oblige à morceler l'apprentissage. Alors, si je veux parler, bon, ici, c'était l'exemple avec le dialogue, mais si je veux parler, mettons, de l'addition à deux chiffres, ben, je suis pas obligée de faire tout le truc en une journée. Puis même à ça, c'est meilleur pour l'enfant si j'y vais à petite bouchée parce qu'un éléphant, ça se mange mieux à petite bouchée. Mais ouais. Parce qu'on parle tout le temps, il faut morceler les tâches, il faut s'assurer de morceler les tâches. OK, on fait comment? Bien, il faut prendre les unités de sens. On y va par unité de sens. Qu'est-ce qui fait du sens? On coupe, on coupe, on coupe. Et ça, peuvent devenir des mini-leçons.
Oui. Puis je pensais que ça vient avec beaucoup... Ça vient avec la pratique, je peux dire ça. Parce que je me souviens, quand moi, j'étais dans la salle de classe, souvent, ce que je faisais, c'est que je donnais des mini-leçons. Puis mes élèves, ils savaient très bien qu'en dedans de 10 minutes, même si je n'avais pas fini ma leçon, on allait arrêter là. Mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est que même après la courte 10 minutes, je vais toujours m'assurer de faire un petit retour de qu'est-ce qu'on a appris, même si c'était seulement un concept. Et mes élèves, ils savaient très bien que c'était vraiment 10 minutes. Alors, pour eux autres, il y avait quelque chose à prévenir.
Puis j'ai 10 minutes, puis après ça, il y a autre chose où je vais être davantage engagée. Ouais.
Exactement, exactement, oui.
Puis ce que j'aime aussi, ce que j'aime aussi de la classe inversée, c'est l'idée que, sachant que dans le contexte où on est, mes élèves qui ont besoin de plus vont recevoir de l'appui en rencontre sous-groupe ou en rencontre individuelle. Et c'est important que les gens qui vont faire cet appui-là soient au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enseignement pour être cohérents. Si on parle du tirer du dialogue dans les mini-leçons, dans l'enseignement live, j'ai une responsabilité de m'assurer que ce que je propose à l'élève soit en lien avec ça. Alors, si ça a été fait à l'idée de la classe inversée, je peux me tenir au courant, je peux aller le regarder, je peux le regarder avec l'élève pour voir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, comment on peut aller plus loin. Alors, ça permet à tous les acteurs, les intervenants, d'être sur la même ligne, sur le fil conducteur.
On pourrait peut-être donner un exemple de si tu allais présenter l'idée ou enseigner l'idée, le concept de l'addition des chiffres, des nombres de chiffres, comment est-ce qu'on le morcellerait? Quelle serait ton amorce? Quelle serait une mini-leçon? Quelle serait la prochaine?
OK, là, j'avais pris ça comme hasard. Fait que c'est vraiment, tu me mets sur la glace avec pas de bâton, pas de casse. Alors, je pense que la première étape, ça serait, parce qu'il y a l'algorithme, il y a la formule mathématique qui est à l'horizontale, puis il y a la formule mathématique qui est à la verticale. Quand je travaille sur l'algorithme, quand je fais l'addition à deux chiffres, souvent je les mets un par-dessus l'autre. Alors, juste de faire la transition avec l'addition à un chiffre, comme 10 plus 7 par exemple, ben 10, c'est deux chiffres. Déjà, Mylène, hein? Mais d'aller transposer puis de montrer à l'enfant que ça se fait aussi à la verticale, ça serait mon premier point, je pense.
Oui.
Après ça, le tableau de centaines, dizaines... Non, écoute, tu m'as lancé, tu peux pas m'arrêter de même, là.
Attends, vas-y.
Mais au niveau de... J'irais dans le cadre puis je mettrais dizaines et unités dans un espèce de tableau à deux entrées, là. Et j'irais mettre le cadre comme une espèce de calque par-dessus l'addition pour que l'enfant puisse voir que les deux colonnes représentent une valeur de position. Oui. J'irais dans ce sens-là.
En fait, moi, j'adore. Qu'est-ce que Mylène a dit? C'est drôle. Même si on t'a mis sur la glace, sans bâton et sans casque, tu as fait ça avec brio, parce que moi, j'avais pensé exactement à la même chose, mais je l'aurais fait probablement à l'inverse, pas à l'inverse, mais comme dans un sens un petit peu mélangé, comme j'irais faire une mini-leçon sur une révision, c'est quoi les dizaines, c'est quoi les centaines, c'est quoi les unités. Et après ça, là, je ferais, qu'est-ce que tu avais dit, de comprendre qu'une addition à l'horizontale puis à la verticale, c'est pareil. Puis là, le lendemain, ou même peut-être deux ou trois jours après, là, on va faire les additions avec pas les retenues, mais tu sais, là, les dizaines, puis la transférée de dizaines. Fait que là, on vient de morceler. Là, on parle rien d'autre que l'addition.
On s'en va sur le site de Math Learning Center. On va chercher l'application gratuite des centicubes. Et pendant que je suis avec les élèves, je suis capable d'aller décomposer les centicubes et recomposer les centicubes pour que l'enfant comprenne d'où vient la retenue. Ça serait
notre Oui, j'aurais commencé par ça. J'aurais fait une révision de « OK, on sait comment additionner, blablabla, mais oh, ici j'ai un problème, j'ai déjà 17, da, 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 et là je viens de recevoir 22. Et qu'est-ce que je fais? Pour leur montrer le besoin d'apprendre. Puis j'irai faire ça avec les centicubes en premier pour leur montrer le sens de ce qu'on fait. Et puis par la suite, l'algorithme aurait plus de sens. Wow, on vient de planifier une belle série de leçons.
C'est ça que j'allais dire. En fait, je voulais dire une très belle remarque, c'est que tout ce qu'on vient de faire, on est à trois places différentes, on est en distance maintenant, mais on vient tout juste de faire une planification. On nous a donné un sujet, on est parti de pas mal de pas grand chose, puis on a eu des idées, puis on a travaillé à trois. Alors, en réalité, dans vos écoles, les sessions qui sont comme ça sont aussi importantes. Je comprends, on nous demande énormément de choses, mais si vous pouvez juste passer peut-être une demi-heure avec vos collègues, avec vous, même si c'est pas du même niveau, vous échangez des idées. Et après ça, votre planification, le temps que vous avez mis dans votre planification vient d'être coupé à moitié, d'être au moins rétréci.
Alors, rien n'empêche que si on est toutes les trois, moi, je m'occupe de la classe inversée, je fais la première mini-leçon, toi, tu fais la deuxième mini-leçon, toi, tu fais la troisième mini-leçon, puis qu'en bout de ligne, nos mini-leçons, c'est rien n'empêche que, parce que si Vicky, je travaille dans la même école, les enfants vont connaître Vicky, alors que la vidéo, ça soit Vicky qui parle, c'est pas un problème. Là.
Non, c'est ça.
L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rendre tout ça exponentiel. Là.
Et c'est même pas nécessaire que ce soit en vidéo qu'on se rencontre. Non. Si je travaille avec une enseignante ressource qui appuie quelques-uns de mes élèves, puis une aide-enseignante, un aide-enseignant qui appuie certains autres, ben je peux avoir un document partagé où j'explique les notions, les concepts de la semaine, puis tout le monde, parce que c'est super important que ces gens-là qui vont être en appui avec nos élèves sachent exactement ce qu'on va faire pendant la semaine et qu'ils soient impliqués dans la planification.
Alors, j'espère que les enseignants, lorsqu'ils sont retournés à l'école pour prendre leur ordinateur, ils ont aussi pris leur cahier de planification avec eux autres, parce que ça demeure un outil essentiel juste pour avoir un aperçu de la semaine, un aperçu de tout ça. Comme on vient d'entendre, c'est que même avec un seul sujet, on vient de le morceler sur plusieurs journées. Et c'est la collaboration qu'on vient d'avoir là, comme un petit peu, désolé pour mon anglais là, mais un petit peu comme un ad hoc là, c'est vraiment, il y a pas de prix, là, comme on dit.
Ça, c'est du latin, Vicky.
Ah! Oh, latin! Merci!
Si on veut, par la suite, là, il nous restera à planifier comment, de manière explicite, on allait demander à l'élève de reproduire, comment est-ce qu'on allait le montrer, et de planifier notre visuel aussi. Parce que là, pendant que je parle de X, qu'est-ce que l'enfant va voir, quel matériel l'enfant va utiliser, de quelle façon je vais... Parce que là, en ce moment, on n'en a pas de matériel de manipulation. Parce que quand on est allé à l'école 15 minutes, le bac de maths, c'est peut-être pas ça à quoi on a pensé. Par contre, il y a des applications en ligne qui peuvent nous outiller. Si on n'est pas sûr quelle utilisation, quel site vous venez dans les appuis, puis les gens qui sont responsables peuvent vous les partager. Mais l'idée, c'est que qu'est-ce que je vais utiliser? Puis l'enfant qui est à la maison, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il n'y en a pas de cadre à 10 cases, mais rien n'empêche que s'il prend une boîte d'œufs puis qu'il coupe les deux extras, il y en a un cadre à 10 cases. Mais de réfléchir à ce niveau-là, de comment l'enfant va manipuler.
Oui, puis aussi. De qu'est-ce qu'on va lui demander de faire comme apprentissage à la maison, parce qu'il faut qu'on distingue, on en a parlé brièvement la dernière fois, mais la distinction entre devoir et apprentissage à la maison.
Mm-hmm. Absolument. Puis gardez en tête que, sachant que l'évaluation s'en vient, là, un devoir, selon Farquhar, le succès ne peut pas être évalué.
Non.
Alors ça, dans notre intention pédagogique, dans ce qu'on propose aux élèves, dans notre planification, parce que gardez en tête que l'évaluation, ça se planifie aussi, il faut réfléchir à tout ça puis de voir quelle direction on va prendre. Fait que là, on a parlé, gang, on a parlé de la planification du direct. On a parlé un petit peu de la planification, de l'appui en sous-groupe et en individuel. Selon vous, comment je me prépare pour rencontrer des élèves en petit groupe? Est-ce que je me prépare de la même façon que si je me préparais pour un live?
Oui, je pense qu'il y a un lien entre tout ça. Comme tu avais dit tantôt, Mylène, je pense que les rencontres en sous-groupe ou les rencontres de 1 à 1, c'est très important que ça soit relié à qu'est-ce qu'on avait parlé durant la mini-leçon. Et aussi, je pense qu'il y a toujours, il devrait avoir toujours un fil conducteur entre tout ça. Parce que si on vient de parler des additions le matin, durant la mini-leçon, et après ça, lorsqu'on rencontre les élèves, mais on va parler de multiplication, mais là, il n'y a pas de lien. Puis avec la mini-leçon, avec l'interaction qu'on a eue le matin ou la session live avec les élèves, lorsque les enseignants vont avoir les rencontres de sous-groupe ou les rencontres de 1 à 1, c'est le moment de prendre qu'est-ce que l'élève a dit, qu'est-ce que l'élève a réussi à démontrer comme connaissance et de lui donner un petit peu de rétroaction descriptive.
Mais j'irais même jusqu'à aller chercher les preuves d'apprentissage. Parce que lorsqu'on est en grand groupe, c'est très difficile d'aller voir comment l'enfant réfléchit, comment l'enfant pense, c'est quoi son raisonnement. Alors, en petit groupe, je peux aller susciter la preuve, je peux aller chercher une preuve, je peux lui donner de la rétro, je peux lui demander de s'auto-évaluer, je peux lui demander d'aller se fixer des objectifs d'apprentissage personnel en lien avec les points à travailler. Je peux lui demander c'est quoi son plan, quelle est la date de remise, la seconde date de remise de ta tâche suite aux rétroactions, je peux aller vraiment loin dans mes rencontres individuelles.
Absolument, absolument, oui.
Mais je pense que ça démontre aussi qu'on peut avoir plus qu'une intention dans les rencontres en sous-groupe. Mm-hmm. Ça peut être comme notre guidée, conférence de classe, pour les élèves qui ont besoin d'un peu plus d'appui, mais l'autre intention, c'est l'évaluation, mm-hmm. c'est de savoir où ils en sont. En difficulté, qu'ils vont recevoir ou qui vont assister à des petites rencontres, c'est tous les élèves.
Puis une remarque, c'est que n'oubliez pas les enseignants, lorsque là, on est dans ce contexte-là, si vous faites des rencontres en sous-groupe ou des rencontres 1 à 1, essayez de reprendre cette idée, de reprendre cette belle pratique puis le retransférer dans la salle de classe. Parce que si les enseignants le font pas, les rencontres de petits groupes ou les rencontres de 1 à 1, c'est très possible que dans la salle de classe, ils ne le faisaient pas. Alors, si là, présentement, c'est une belle occasion, t'apprends comment à le faire, t'apprends comment à gérer ce genre de rencontre-là, puis de retransférer ça dans la salle de classe.
Et c'est un peu plus facile en ce moment, parce que t'as pas tout un autre groupe qui doit être occupé et autonome dans ta classe. T'as juste le petit groupe qui est avec toi.
Ouais. Est-ce que selon vous, les rencontres individuelles puis les rencontres en groupe sont pertinentes seulement pour le primaire intermédiaire?
Non, jamais!
Jamais.
Encore une autre fois, je reviens à l'intention aussi. T'sais, en fait, il y a deux choses. Nous autres, quand on est dans un petit groupe ou quand on est dans des 1 à 1, on se sent plus important. Puis on veut que les élèves se sentent importants, qu'on lui donne l'attention particulière. Puis aussi l'intention, parce que, comme Jennifer a dit tantôt, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire, puis il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir lorsqu'on est en grand groupe. Alors, ton intention, lorsque tu es en rencontre 1 à 1, va être différente. Que ce soit en maternelle-jardin, que ce soit au primaire, au moyen, intermédiaire et même au secondaire. Tout ça, c'est important.
Parce que là, selon le nombre de temps en direct, de la maternelle-jardin à la troisième, c'est 30 minutes par jour. Puis là, dites-moi si je me trompe, là. De la quatrième à la huitième, c'est 1 heure par jour. Et de la neuvième à la douzième, c'est 3 heures par cours par semaine, qui fait un total de 12 heures. Mais quand tu as déjà 12 heures avec l'élève, il faut vouloir être compréhensif et flexible dans la manière dont on propose les appuis en sous-groupe, sachant qu'ils sont déjà bien occupés, n'est-ce pas?
Oui. Et... Oui, mais, je veux dire oui, mais on n'est pas censé, alors je dis oui, et. On a vu hier, dans les formations que toi et Marc vous donniez, que l'évaluation est une grande préoccupation de tout le monde en ce moment, et avec raison, parce que ça va être plus difficile si les élèves sont à la maison, on les voit pas, il y a moins de temps d'observation, et il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que si je donne une activité d'apprentissage, même si je demande à l'élève de se filmer, même si, tu sais, quoi que soit la situation, je ne sais pas quel appui il a reçu de la part des parents. Alors, c'est important d'avoir ces moments 1 à 1, même si c'est très, très bref, avec les élèves, qu'ils soient en première année ou qu'ils soient en 12e année. Parce que c'est seulement en leur parlant puis en ayant des conversations qu'on va pouvoir voir de façon, ben c'est pas la seule façon, mais c'est une très bonne façon de vérifier la compréhension des élèves.
Absolument. Mais la seule chose que je dirais par contre, c'est soyons planifiés. Dites pas à 15 minutes d'avis
de la rencontre, ouais,
que vous voulez rencontrer un élève, à moins qu'il vous l'ait demandé. Il faut rester vrai dans tout ça. Là. Mais, mais la planification de ce temps-là, sachant que de la part de la maison, ça demande beaucoup, parce que s'il y a plusieurs enfants ou quoi que ce soit, il faut que la maison planifie autant que nous, on planifie. Alors, il faut rester humain, donner du temps d'avis, être flexible, être compréhensible des situations qui se passent à la maison.
C'est une tâche parallèle entre nous et la maison.
Mm-hmm. On avait parlé du fait aussi, ben, il faut que nous, on soit flexibles et que nos attentes envers les élèves soient flexibles aussi. Oui. Parce que comme tu viens de dire, même si le conseil s'est assuré que tout le monde ait un appareil, alors nos 13 000 élèves, on s'est assuré que chacun d'entre eux, ils ont un appareil puis ils ont une connexion à la maison. Mais il se peut quand même qu'il y ait des défis.
Absolument, puis c'est pas forcément de la mauvaise volonté. Il faut garder ça en tête, que si l'enfant X, sachant qu'il a vraiment besoin d'aide, là, puis que ça serait vraiment à son avantage qu'il vienne me rencontrer en ligne pour travailler l'addition à deux nombres, les têtes de chiffres, puis... Mais que peut-être qu'à la maison, là, il y a plein d'autres affaires qui se passent, puis que pour maman et papa, l'addition à deux chiffres, c'est vraiment pas la priorité.
Comme on avait dit à notre premier épisode de notre série, c'est que c'est pas parce que l'enfant ne veut pas, c'est parce que souvent il ne peut pas. Chez les élèves, il n'y a pas de mauvaise volonté.
Oui. Et ça, c'est malgré le fait qu'ils ont accès à l'appareil et à la connexion. Je veux dire, il y a plein d'autres affaires qui se passent. Là. Fait que gardons ça en tête. Alors là, on a parlé de plein de trucs, mesdames. On a parlé de comment planifier notre live. On a parlé de comment planifier nos sous-groupes et nos individuels en gardant en tête les besoins de tous nos élèves. On a beaucoup parlé de collaboration, de co-planification dans tout ça. On a parlé de choisir notre visuel, on a parlé de d'avoir une intention pédagogique et de rester engageant. Mm-hmm. Dans nos mini-leçons, on a parlé de classe inversée. Et là, je vous pose la question, OK, mais on va parler de quoi toute la classe recommande?
Bien, on va recommander un outil qui va vous servir, énormément lorsque vous voulez faire des leçons dans le cadre d'une classe, d'une classe inversée. On va vous montrer comment faire, pas seulement un capture d'écran, mais on va vous montrer comment faire une vidéo de tout ce qui se passe sur votre écran. Et comme ça, vous pouvez l'emballer avec du beau papier cadeau, avec une belle papillon pour le donner à vos élèves, de le consulter avant votre mini-leçon.
C'est quel outil qu'on va présenter?
C'est Screencastify! Ouh. Et cette semaine, notre défi technique, c'est d'améliorer le son de notre vidéo « Toute la classe recommande » parce qu'il y avait beaucoup d'écho les dernières fois, mais on pense qu'on a trouvé une solution.
Oui, alors on est très excitants et je remercie Mike, ma douce moitié.
Qui après
30 secondes de googlage, a trouvé une solution qui, moi, a pris des jours à trouver.
J'aimerais juste mentionner, avant qu'on se quitte, qu'on avait parlé de la réalité à la maison. Puis malheureusement, la réalité à la maison, selon les statistiques, c'est qu'il y a des élèves qui vivent des moments très, très difficiles, que ce soit juste anxiété ou que ce soit quelque chose de plus néfaste, malheureusement. Alors, j'aimerais proposer le service de Jeunesse J'écoute que vous pouvez partager avec vos élèves et le mentionner à plusieurs reprises ou placer leur annonce publicitaire quelque part où les élèves peuvent le consulter. Si les élèves ont besoin d'aide, ils peuvent appeler le 1-800-668-6868 ou ils peuvent envoyer un texto et parler aux gens de cette manière-là.
Oui, merci, Jen. Ça, je pense que c'était essentiel dans ce cas-ci. OK, mesdames, maintenant, on boucle la boucle avec la planification. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine?
Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a planifié. On a donné nos leçons, mais on va les laisser tout seul, là. Non, Jen, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on a deux invités à des services aux élèves. On a Annie Bellemare et France Winger qui vont nous parler de l'appui que les enseignants ressources et d'autres, les aides-enseignants, d'autres intervenants peuvent offrir à nos élèves et nous aussi comme titulaires. Il ne faut pas oublier que c'est notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer la réussite de tous nos élèves?
Merci. Comme je dis tout le temps, des bonnes pratiques en salle de classe, ce sont des bonnes pratiques en enseignement à distance. C'est juste que c'est un peu différent. On le met dans un contexte différent.
Bonne semaine, tout le monde!
Merci, Mylène. Merci, Jen.
Et bye-bye!
Bye!
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Bansal-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.